Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup d'être présente et présent pour cette inauguration en fait du cycle de webinaire 2021 du réseau Médici des métiers de l'édition scientifique publique. C'est un cycle que nous avons conçu au comité de pilotage du réseau pour apporter un éclairage nouveau sur nos métiers de l'édition qui sont en mouvement permanent, notamment à l'ère de la science ouverte. Et donc, nous avons un petit programme qui s'étale sur tout ce semestre avec vraiment des choses assez différentes. Il y aura des retours d'expérience, des présentations, il y aura également une table ronde. Donc sur des sujets assez divers, soit que nous connaissons, dans lesquels nous irons un peu plus approfondir, soit que nous allons complètement découvrir, à l'exemple du premier séminaire, enfin webinaire de ce matin, rédiger, publier et certifier une littérature académique multimodale, l'e-talk, qui va nous être présentée par Claire Cliva. Donc je vais laisser la parole tout de suite à François-Xavier Mas, qui a donc conçu avec Claire ce webinaire, cette première session, pour vous présenter un petit peu les enjeux, et puis ensuite à Claire pour nous expliquer plus en détail ce qu'est l'e-talk. Je vous remercie.
Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc pour cette première séance du cycle de webinaire du réseau Médici. Nous accueillons aujourd'hui Claire Cliva. Claire Cliva qui est chercheuse suisse en humanité numérique. Elle dirige le groupe Digital Humanities Plus à l'Institut suisse de bioinformatique et mène des projets de recherche à la croisée du Nouveau Testament et de la culture numérique. Elle nous présente aujourd'hui le projet eTalk, qui est un projet qui a été lancé il y a une dizaine d'années, c'est ça à peu près, et qui est un outil d'édition multimodal. Donc, elle nous présentera ce que cela signifie et les différents usages qu'on peut en faire. Nous pensions qu'un des usages possibles de eTalk, c'était peut-être l'éditorialisation des actes de colloque, donc des conférences ou des séminaires ou autre type de communication orale. Pourquoi? Parce que les actes de colloque posent une sorte de problème éditorial. On sait que les maisons d'édition rechignent à les publier car elles pensent, à juste titre sans doute, hein, que ce type d'ouvrage ne trouveront pas leur public, soit parce qu'ils manquent d'unité, parce qu'ils sont un petit peu, ils ont un effet patchwork, ou dit autrement, parce qu'ils ne reflètent pas la pensée d'un auteur. Et deuxièmement, souvent entendu, parce qu'ils sont toujours suspects quant à leur qualité et à leur certification. Est-ce qu'ils ont fait l'objet d'un peer review après la conférence, etc. D'autre part, enfin, surtout ce qui nous semble intéressant, c'est que les actes de, les colloques, les séminaires restent un moment important de la communication et de la conversation scientifique. Et à ce titre, il mériterait peut-être d'explorer de nouvelles pistes d'éditorialisation pour mêler à la fois le son, l'image et éventuellement le côté social, les discussions qui peuvent avoir lieu lors d'une conférence. Et donc, nous allons voir avec Claire en quoi la littérature multimodale peut répondre à ce défi. Je te laisse la parole, Claire. À tout à l'heure.
Alors, merci beaucoup pour votre invitation tout d'abord, et puis je suis ravie d'inaugurer cette série que je vous souhaite fructueuse, sachant qu'il y a la frustration de ne pas pouvoir vous réunir en vraie présence, en présence réelle à Paris, mais j'espère qu'on va tout de même partager un bon moment autour de ce sujet. Alors, oui. Voilà, ça apparaît. Trois points. François-Xavier et Céline m'ont demandé hier de situer brièvement Opéras et le projet Opéras-P, parce que cette présentation est faite dans le cadre du projet H2020 Opéras-P. Et puis après, ben, d'une part, la conception de l'e-talk et enfin l'e-talk et ses développements. Et nous terminerons par une discussion ouverte sur toutes les questions que vous auriez, peut-être en particulier sur ce challenge que nous vous proposons avec François-Xavier, pourquoi ne pas publier une fois des actes de colloque sous ce format? Il faut toujours un petit temps pour que l'image arrive, mais c'est bon. Alors, Opéras, je ne sais pas qui parmi vous a déjà entendu parler de cette nouvelle infrastructure de recherche dans le paysage européen. Vous avez le site web de cette infrastructure de recherche ici. Donc, en sciences humaines et sociales, on a comme Eric Daria, Clarin, Cesda, que vous connaissez sans doute déjà, et Operas, qui est une infrastructure de recherche émergente qui a actuellement le format d'une AISBL, une association internationale de loi belge, et qui est en train de prendre de l'ampleur et de s'installer comme nouvel acteur dans ce paysage d'infrastructures de recherche européenne en sciences humaines et sociales. Alors, Operas, c'est donc, là j'ai simplement traduit la définition que vous avez sur le site, une infrastructure de recherche donc qui a cette forme d'AISBL, comme je l'ai dit, et son but principal est de stimuler, de développer, de soutenir la communication académique dans le champ des sciences humaines et sociales. Elle fournit plusieurs services de certification, de recherche, de métrique, de découverte, et elle est organisée en groupe d'intérêt. Alors avec les ITOC, et c'est un groupe dont fait partie aussi justement François-Xavier, je participe au SIG sur les nouveaux outils qui favorisent le renouveau de la communication académique. Et Operas est dirigé par un comité exécutif d'une douzaine de pays membres. Devrait arriver incessamment, voilà, la carte de géographie qui vous montre, donc il y a déjà quand même un bon nombre de membres, là c'est, il est indiqué 10 membres comme dans le comité exécutif, mais je crois que maintenant on est déjà à 12 et 56 autres organisations, et au milieu, pour une fois, la Suisse n'est pas vide, la Suisse n'est pas en blanc, puisque nous avons depuis 2020, un membre ordinaire, c'est justement ce groupe d'IH+, à l'Institut Suisse de Bioinformatique dont je m'occupe, et j'espère que nous aurons prochainement une fois aussi un membre exécutif, un rôle qui devrait être assumé par DASH, qui est notre centre pour les sciences humaines, les données en sciences humaines en Suisse. Donc voilà, c'est en développement, on va dire, on est en train d'entrer en contact structuré avec Operas. Alors, je mets en avant un projet, Operas est engagé dans plusieurs projets de recherche. Ce projet qui a abouti, c'est un outil de certification de monographie en libre accès. Alors, ça peut particulièrement intéresser tous ceux qui sont éditeurs parmi vous. Et ce service a déjà pris place sur EOSC. C'est donc le cloud européen qui devrait à terme accueillir les grands projets de recherche. Et je suis particulièrement fière et heureuse de collaborer avec Operas parce qu'ils sont vraiment très en avant sur ce contact au cloud européen. Et tout récemment, Suzanne Dumouchel, qui co-dirige Operas avec Pierre Mounier, que vous connaissez sans doute bien ces deux noms, Suzanne Dumouchel a été nommée parmi les 8 personnes de l'advisory board du cloud européen, qui concerne donc toutes les sciences. Et je pense que vous pouvez être fiers d'avoir une Française à ce niveau de responsabilité. Pour les sciences humaines et sociales, c'est très important. Ça veut dire que ça nous donne une voix au top pour le développement de cette recherche, de ce cloud européen, où vous avez plusieurs services d'Operas et notamment cette certification de monographie en libre accès. Alors, pour ma part, avec mon groupe, nous sommes engagés dans l'H2020 Operaspe, qui est un projet qui vise à structurer Operas. Le P, c'est pour préparation, en fait. Donc, c'est la deuxième étape de structuration d'Operas. Et nous sommes dans le VP6.5, qui concerne précisément les nouveaux modèles d'écriture académique. Alors, vous voyez que nous sommes plusieurs partenaires. Le CIB est partenaire de Daria dans ce projet, parce que quand il a commencé, nous n'étions pas encore membres d'Operas. Donc, ça a été Daria qui nous a tendu la main pour pouvoir rejoindre Operas, en quelque sorte, le Luxembourg, la Croatie, deux partenaires en Allemagne et la Pologne. Et je vous ai indiqué un DOI parce que nous avons déjà mis sur Nakala une présentation et une vidéo qui a été faite à la journée de la recherche des données à Genève, c'était en octobre dernier. Et suite à cette présentation, nous avons soumis un article qui est en ce moment en examen, donc il va bientôt y avoir des traces et des échos de ce que nous faisons dans ce groupe avec beaucoup d'interviews. Nous avons dans tous ces pays et dans d'autres mené des interviews d'éditeurs, de chercheurs, de bibliothécaires, de tous ceux qui pouvaient être concernés par les nouveaux moyens d'écriture. Alors voilà le contexte général de cette présentation. Et si vous avez des questions sur Opéra, ben, j'y répondrai volontiers. Alors là-dedans, dans ce paysage des nouveaux moyens d'écriture scrutés par Opéras, je vous propose ce matin de découvrir l'e-talk, qui est né de deux constatations. C'était au départ mon idée ou mon envie, et la première personne avec laquelle j'ai bâti ce modèle d'outil de publication multimodale interdisciplinaire était Frédéric Kaplan à l'EPFL pendant quelques années, et puis après j'ai continué à le développer dès 2015 en arrivant à l'Institut Suisse de Bioinformatique. C'est là où j'ai continué après à le développer. Et donc les deux constatations de base, c'est que j'étais frustrée par toutes ces vidéos souvent passionnantes de chercheurs qu'on voyait, mais qui n'étaient absolument pas réutilisables, qu'on ne pouvait pas citer en détail, à moins de parcourir rapidement les 40 minutes du discours, et qui étaient aussi non référencées. Et vous savez, comme moi, et c'est ce que je fais ce matin, en toute humilité, quand on a un discours oral, eh bien, on y va comme ça. On connaît bien notre affaire, on connaît bien notre sujet, on a nos lectures en tête, mais disons, ce n'est pas le même effort de précision et de sérieux académique et scientifique que l'article écrit où nous référençons tout exactement. Pour ma part, je suis comme chercheuse donc dans les manuscrits du Nouveau Testament et j'ai l'habitude de ces articles de recherche où vous avez le deux tiers des pages qui sont des notes et puis le tiers qui reste qui est un texte. C'est ça, disons, ma formation de base. Le discours oral n'a pas cette précision en général. Donc je me disais, est-il possible d'avoir un discours citable en détail avec les images et les références? Et puis le deuxième déclic, c'était le retour fascinant de la rhétorique dans la communication académique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai étudié de plusieurs manières dans des publications. Cette littératie multimodale, comme on appelle cela techniquement, le retour de cette rhétorique dans la communication académique des chercheurs. Et j'essaie toujours d'avoir un peu le recul historique sur cette question parce que Lucien de Samosate, qui est un des rares auteurs de l'Antiquité qui nous a laissé des réflexions structurées sur l'histoire et le métier d'historien au deuxième siècle de notre ère, estimait par exemple que l'historien avait rempli sa mission, atteint son but, lorsque son auditoire l'applaudissait, lorsqu'il avait été suffisamment convaincant pour permettre à son auditoire de l'applaudir. Ça, c'était la situation rhétorique dans l'Antiquité. Convaincre le public, c'était ça le but le plus important. Et alors, on a ce switch énorme que je choisis de représenter dans la modernité par le nom du créateur de l'historicisme allemand, Leopold von Ranke, au XIXe siècle, où on met tout ce qui est de l'ordre du pathos dans la rhétorique entre parenthèses pour aboutir à un style historique qui, nous dit Ranke dans son introduction à l'histoire romaine, doit être sans couleur, farblos, et ennuyer son lecteur. C'est dit tel quel sous la plume de Ranke, et forcé de constater que nous avons réussi à force d'ouvrages historiques hyper documentés. C'était, dont la mienne, j'avoue, faisait près de 700 pages, nous avons réussi à créer un discours tout à fait sérieux, sans émotion, et prêt à ennuyer le lecteur, à moins qu'il ne soit fasciné par les notes de bas de page. Donc, nous voilà au milieu de ce tournant rhétorique de la communication académique, et pour mesurer son impact, cet exemple est pour moi absolument frappant. C'est Jenny Strauss-Kley qui a repris un chant de l'Iliade énormément commenté dans l'historico-critique. Les chercheurs ont proposé un tas de reconstructions différentes pour voir quel était le premier état du texte, le deuxième état du texte, et j'en passe. Et cette chercheuse américaine a pris un parti complètement différent. Elle a reconstitué un petit théâtre antique. Et elle a fait jouer la scène de l'Iliade de plusieurs manières. Ils l'ont dite, ils l'ont performée. Et au fond, par l'impact de la performance et de l'oralité, elle en est arrivée à complètement remettre en question les reconstructions purement textuelles qui avaient été faites de ce chant de l'Iliade. Alors, je trouve que c'est vraiment un exemple. Là, je vous le résume très rapidement et puis je vous laisse plonger dans le livre si ça vous intéresse davantage. Mais je trouve vraiment fascinant de voir combien la prise en compte de la performance et de l'oralité peut amener à reconsidérer et réviser toute une histoire de la recherche en critique textuelle dans la modernité. Donc, du coup, je me suis mise en quête d'un outil qui permettrait de valoriser tout l'apport de l'oral du chercheur. Et l'argument devient différent quand on le dit en vrai, avec la voix. On sent tout de suite qu'est-ce qui convainc le chercheur, dans quelle liste d'arguments il s'investit davantage, qu'est-ce qu'il essaye de faire passer. Donc, je voulais garder cette richesse de l'oralité de la performance et pouvoir citer en détail ce discours et avoir quelque chose de documenté et de référencé. Alors, ça a été une longue aventure parce que, comme toujours, quand on démarre des nouvelles choses, on n'a pas de fond. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont mis du temps spontané dans cette affaire, à commencer par Frédéric Kaplan et son doctorant Cyril Bornet au départ. Et puis ensuite, on a continué avec Marion Rivoel, Martial Sankar. Nous avons publié deux articles, vous avez eu les références si vous voulez aller voir le discours plus en détail. Voilà. Et François-Xavier me demandait hier s'il y avait d'autres outils similaires. Alors, j'ai été regarder à quoi on était Scalar, qui était un petit peu le principal outil de publication multimodale. Et j'ai été surprise de voir qu'il est plutôt un peu sur le mineur. Maintenant, le site même de Scalar n'est plus actif. Par contre, j'ai trouvé encore cette équipe qui s'occupait de Scalar. C'était un petit peu... de ce que j'ai vu, mais je n'ai pas refait le tour de la question tout récemment, j'avoue. L'outil principal côté américain de publication multimodale, Scalar toutefois ne permet pas de citer autant en détail que Litox, qui moi me tenait à cœur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de développement du côté de Scalar ou des outils multimodaux en général? Eh bien, probablement en partie, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous parler ce matin en particulier, par manque de partenariat avec les publishers, selon le terme anglais qui permet de distinguer éditeurs scientifiques ou éditeurs commerciaux. Il y aura vraiment un décollage et un envol de la communication académique multimodale lorsque nous aurons des éditeurs commerciaux qui s'engagent en partenariat avec les chercheurs pour apporter la certification d'une série renommée ou d'un nom d'éditeur renommé indispensable à toute publication académique. Et personnellement, même si on peut mettre en ligne tout ce qu'on veut, comme on veut, je reste une farouche supporter des partenaires éditoriaux commerciaux, parce que je trouve qu'ils font vraiment partie intégrante de la certification académique, de la discussion entre chercheurs, voire de l'arbitrage entre chercheurs. C'est très important de pouvoir soumettre un manuscrit à un éditeur indépendant qui va faire le jeu du peer review. Je pense que si ces choses-là étaient gérées uniquement par les universités, c'est un peu le modèle américain, hein, mais on perdrait beaucoup. Donc, pour ma part, je soutiens vraiment ce partenariat chercheur-éditeur et j'espère que les éditeurs vont s'intéresser à la communication multimodale. Alors, si vous allez sur le site des ITOC, vous y êtes accueillis de cette manière. Et vous y trouvez une trentaine d'e-talks sur des sujets tout à fait différents, parce qu'en fait, on a commencé nos premiers e-talks avec la matière de série de conférences en formation continue. Comme c'est un format de publication pas encore reconnu, on ne s'est pas lancé avec des actes de conférences qui normalement aboutissent soit dans des revues, soit dans des volumes. Mais on a commencé avec des conférences de formation continue et on s'est rendu compte que le format était vraiment riche et permettait beaucoup de choses. Donc, vous avez du coup des sujets différents là dans cette trentaine d'e-talks. Et puis, je vous le montrerai plus tard. J'en ai développé, on en a 6, 7, 8 maintenant, une série dans un projet de recherche sur les manuscrits du Nouveau Testament. Donc, on a à peu près une petite quarantaine d'e-talks au jour où je vous parle. On a une autre équipe de collègues en Suisse qui a aussi développé, repris les e-talks et fait une série. Donc, on a dans ces e-talks des images, du son et du texte. Je vais vous montrer ça plus en détail. Et vous pouvez aller bien sûr sur le site. Vous trouvez deux petites l'une en français, l'une en anglais de 2 minutes et demie qui vous font le topo sur le fonctionnement de l'e-talk, si vous voulez voir ça de manière synthétique. Et voilà, alors je pris au bol ben, 2 exemples d'e-talk. Ça, c'est dans la série L'homme augmenté, qui était justement une série de contributions en formation continue sur le thème de l'homme augmenté. Donc, vous avez l'image de couverture et puis vous pouvez cliquer sur lire l'e-talk. Ah oui, ça, c'est une slide que j'ai ajoutée à la demande de François-Xavier hier, qui me demandait, c'est bien parce que comme on peut l'écouter, ça peut être utile pour les personnes qui ont de la difficulté à voir ou qui sont non-voyantes. Et est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Alors, ça m'a rappelé que j'avais vu dans PowerPoint que vous avez cette fonctionnalité. Vous appuyez sur Text Alt et vous pouvez décrire votre slide à une personne non-voyante. Ça peut même être fait automatiquement. Vous avez, bon, alors ça marche plus ou moins bien, mais vous avez aussi des descriptions automatiques des images. Je n'ai pas prospecté plus, mais pourquoi pas, par ce biais-là, songer à intégrer également des descriptions visuelles des slides pour aller encore plus loin dans le service normal attendu aux personnes non-voyantes. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur cette possibilité à exploiter. Et donc, vous cliquez sur l'e-talk que vous voulez voir, regarder, et vous arrivez à ceci. Là, vous avez le choix entre une ingestion passive de l'e-talk, c'est-à-dire que vous pouvez simplement appuyer sur la flèche et vous allez entendre un texte, pouvoir le lire en même temps si vous le souhaitez, voir les images, et voilà, c'est le discours du chercheur pendant 20 minutes, pendant 40 minutes, pendant 30 minutes. Vous pouvez aussi choisir d'avoir une attitude active dans l'e-talk. Alors, vous voyez que vous avez un sommaire avec les parties de l'e-talk. Vous pouvez aller directement au point 3 si vous voulez tout savoir sur l'avatar, en l'occurrence. Vous pouvez aussi faire une recherche par mot. C'est simplement la fonction search et arriver directement à un endroit de l'e-talk. Donc, c'est le choix pour les participants, soit d'assister à l'e-talk, de l'écouter, de le regarder, soit de s'y promener en fonction de ce que vous cherchez. Voilà. Alors là, on est entré dans l'e-talk. Donc, vous avez sur la gauche le texte qui défile. Le texte a été enregistré sur MP3 et puis après, avec le logiciel Audacity, nous le découpons en phrasé, on essaye de suivre le souffle du chercheur. Alors du coup, ça fait des fois une phrase, des fois 2 phrases, des fois 3 phrases. On est plus sur quelque chose qui est proche de la musique au bout du compte. Alors l'unité de base, ben, c'est ce phrasé conforme à la diction et au souffle du chercheur. Nous en rédigeons le texte ou bien le chercheur nous envoie le texte qu'il a lu. Et à ce phrasé est associé un slide et vous pouvez également, c'est pas le cas ici, mettre dessous des hyperliens. Donc quand l'usager s'arrête ici, il peut cliquer sur l'hyperlien s'il y en a un et aller confronter la source à ce que dit le chercheur. Ça pour moi c'est aussi un point très fort de l'e-talk. On peut en temps réel aller consulter les sources citées et voir si on est d'accord avec l'argumentation déployée ou pas. Du coup, ça met un niveau d'exigence assez haut pour, disons, l'exactitude des informations que vous mettez dans l'e-talk, parce que quand on lisait un article imprimé, il y avait tout un contrat de confiance. On faisait confiance à ce qui était dans la note de bas de page. Et puis, nous avons tous et toutes eu cette surprise d'aller, une fois vérifier une note de bas de page, et de voir que soit nous n'étions pas d'accord avec la source citée, soit que c'était franchement faux, soit que c'était pas la bonne référence. Alors du coup, là, on a, je dirais, un niveau d'exigence de plus dans la communication, parce que vous mettez dans les mains de votre lecteur usager toutes les cartes pour qu'il puisse, le cas échéant, vous contredire ou aller plus loin ou voir les choses autrement que ce que vous êtes en train de dire. Donc, on peut aller assez loin dans cette disposition-là avec un e-talk. Et chaque phrasé avec l'image et avec la référence et les hyperliens peut être cité au moyen d'un URL. Donc, vous appuyez simplement sur le bouton « Partage du phrasé que vous voulez citer » et vous obtenez cette URL que vous mettez dans votre texte, sur votre site où vous voulez. et qui vous permet de revenir exactement aux deux, trois phrases, au phrasé, avec l'image et les hyperliens. Et donc de citer un e-talk avec la même précision que vous le feriez avec un texte écrit. En plus, il s'agit d'une référence multimodale, texte, image, son, le tout ensemble. Et pour moi, c'est un des traits qui signale qu'on a là un changement qualitatif important avec la modernité. Vous savez sans doute que un des traits de la naissance de la modernité, c'est l'apparition de la note de la bas de page, de bas de page au XVIe siècle. On a un très bel ouvrage d'Anthony Grafton sur la note de bas de page et l'histoire de la note de bas de page. Et là, au fond, on a le stade suivant, puisqu'on a la création d'une note, non pas de bas de page, mais d'URL, d'une référentialité texte, image, son, tout ensemble. Ce serait au fond un saut qualitatif dans la communication académique. Il y a une interface éditoriale, et là j'en suis encore tellement reconnaissante à Cyril Bornet et Frédéric Caplan, très facile d'usage. Dans tous les e-talks qui ont été évoqués, la plupart ont été faits par des chercheurs qui n'étaient absolument pas DHR et encore moins informaticiens. Donc l'interface est utilisable par tout un chacun. On télécharge en interne le fichier MP3 et après l'outil, vous voyez, met le phrasé, il n'y a qu'à mettre le texte à côté, l'image s'ajoute ici et là on peut mettre le copyright. Donc, c'est vraiment d'usage simple. Et avec ces outils-là, vous pouvez faire vos sous-chapitres dans l'e-talk. À partir d'un moment où un chercheur envoie les slides, le texte et l'enregistrement MP3, ça ne prend vraiment pas longtemps de fabriquer l'e-talk grâce à cette interface. Et on a fait tout un travail, c'est grâce aux e-talks que je me suis mise à comprendre un petit peu comment marchaient les copyrights pour les images et tout ça. Ça a été toute une aventure. Maintenant, on a dans l'équipe un bon niveau là-dessus, je crois. C'était vraiment grâce aux e-talks où on a appris à référencer correctement tous les copyrights des images quand c'était possible, à chercher celles qui étaient en libre accès sur Wikicommons, etc., à contacter les éditeurs quand il y avait une couverture et ces choses-là. Et comme je le disais, ben là, vous voyez l'exemple d'un chapitre. Hein, quand vous faites votre table des matières, vous prenez simplement ici un petit morceau comme ça, vous le mettez là et vous pouvez créer votre partie dans l'e-talk. Alors, l'e-talk et ses développements, bien, on a eu plusieurs partenariats vraiment intéressants. Comme vous le voyez ici, l'e-talk fait partie des projets présentés par IADH, c'est l'association européenne en DH. Le moment principal qui a vraiment boosté l'e-talk, c'est que nous avons pu participer à un partenariat de 2 ans et demi Erasmus+, Daria Teach, qui était mené par Daria et par Suzanne Schreibmann en Irlande. Nous avons fait partie de ce projet où j'ai pu développer avec Martial Sankar un cours sur la littératie multimodale. Alors, les deux premières unités de manière classique et multimodale introduisent au thème. Et puis, l'unité 3, nous avons pu développer un cours pour construire soi-même son e-talk. Et vous avez des guidelines dans ce cours qui ont été dédoublés. Nous avons fait une version pour les personnes qui étaient familières de l'OS Unix et une autre version pour les personnes qui n'étaient pas du tout familières d'Unix. Alors bon, bah après, ça reste quand même d'un certain niveau informatique d'arriver à mettre sur pied un e-talk, mais on a en tout cas une ou deux équipes de collègues qui ont pu le faire. Et ben je reste à disposition, le cas échéant, si quelqu'un est intéressé à reprendre les e-talks. En tout cas, tout se trouve sur le site titria.eu. Depuis 2018, depuis fin 2018, je mène un projet important de 5 ans sur la fin de l'Évangile de Marc, les manuscrits de la fin de l'Évangile de Marc dans le cadre du Fonds national suisse. Et on est en train d'y développer cet environnement virtuel de recherche avec l'outil principal, c'est une chambre des manuscrits, on a maintenant 36 manuscrits qui vont bientôt être tous mis en ligne, qui se centrent sur la finale d'Évangile de Marc. Et c'est la première fois, à mon humble connaissance, qu'on a un environnement virtuel de recherche centré sur un chapitre d'un texte ancien. Et j'ai repris les e-talks dans ce contexte-là pour mettre en jeu les différentes interprétations des chercheurs. Je voulais faire entendre la voix des chercheurs sur ce cas d'école de la critique textuelle du Nouveau Testament. Ça fait presque 2000 ans qu'on discute sur la fin d'Évangile de Marc. On a au moins 6 ou 7 versions différentes. Et alors, je voulais faire entendre la voix des chercheurs. L'e-talk m'a paru un objet tout à fait idéal pour ce faire. Alors, vous pouvez aller voir le détail. Ici, nous avons l'e-talk d'une chercheuse américaine, Cara G. Lyons-Pardue, et puis un autre que j'ai fait. La plupart sont en anglais, mais j'en ai quand même fait deux en français, traduit deux en français aussi. Et ce que nous avons innové dans ce projet-là pour les e-talks, c'est d'une part la possibilité de mettre les datasets de chaque e-talk sur Nakala, parce que toutes les données du projet, c'est un partenariat avec l'accord du Fonds national suisse que nous avons établi avec Nakala et Humanum. Et je suis absolument ravie de la manière dont ça marche. Vous avez ici, je viens de publier hier, ces nouvelles fonctionnalités de Nakala. Vous pouvez avoir un site web avec vos données de la recherche. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et là, vous trouvez toutes les données des e-talks du projet Marc XVI, ici. Et quand vous cliquez sur un e-talk spécifiquement, vous trouvez tous les MP3, le PowerPoint et le texte. Et au fond, vous avez le matériel. Tout ce qui est fait sur des fonds du Fonds national suisse doit être mis en libre accès. C'est vraiment l'idée maintenant. Donc, vous pouvez bénéficier du contenu des e-talks, le refaire le cas échéant. Et l'autre chose que nous avons développée pour les e-talks dans Marc XVI, c'est une mise à jour du code sur GitHub que vous trouvez avec tout ce qu'il faut ici. Alors voilà, je serais vraiment intéressée à qu'on puisse une fois établir un partenariat avec un publisher, parce que ça permettrait, je pense, de mettre rapidement à disposition, c'est toujours ça le challenge, c'est qu'après un colloque, si on fait un volume, et puis aussi si on fait une revue, ça va plus vite avec une revue, mais si on fait un volume, vous savez comment c'est. Des fois, on attend 3 ans, 4 ans, alors que les chercheurs se sont donné la peine de transmettre la pointe de leur connaissance. Donc, ce serait vraiment chic de pouvoir, une fois, tenter des actes de colloque sous forme d'e-talk, avec la certification apportée par le nom d'une maison éditoriale ou une série. Et ça permettrait d'avoir le texte lu, écrit, les images et les références, et un produit retravaillé dans le détail ensuite. Voilà, donc ça, ce serait vraiment quelque chose, un appel au fond, un appel d'offre en quelque sorte. Et il est évident, même si ça demande un temps de retravail, que ça va plus vite que rédiger un article. Comme je vous l'ai dit au niveau de la technique, via l'interface, on peut rapidement composer un e-talk, donc ça devrait permettre, je dirais, dans un délai, il faut laisser peut-être un peu quand même un moment aux gens de retravailler juste leur texte suffisamment, chercher quelques références de plus. Mais à tout casser, je pense que dans les 3 mois qui suivent une conférence, on devrait pouvoir mettre cette matière à disposition de la recherche en libre accès et entièrement citable en détail. C'est quelque chose d'intéressant. Enfin, en libre accès ou pas, alors après ça, c'est la discussion à avoir sans doute avec un partenaire éditorial commercial, mais comme moi je m'inscris dans ce train positif du Fonds national suisse, on essaie vraiment de mettre tous nos produits de recherche en libre accès. Il y a une chose que je signale encore en termes de rythme de la recherche. J'ai été intéressée à produire des e-talks dans le cadre du contexte de Marc XVI. Alors on a bien sûr, comme il est entendu, les publications classiques sous forme d'articles. Avec le postdoc, on est chacun attelé à une monographie. Mais l'avantage de l'e-talk, c'est qu'une fois que votre article scientifique est accepté, de nouveau, il faut attendre, j'ai fait un talk en 18, et puis on attend incessamment la publication de l'article maintenant, ça fait bientôt 2 ans et demi. Par contre, j'ai pu mettre dans le discours oral de l'ITOC mes références et citables déjà à disposition des chercheurs en avant-première, certains résultats de l'article. Et ça, dans un projet qui va sur 5 ans, ça passe finalement vite, 5 ans, mais qui est un gros projet, hein, à plus d'1,5 million de francs suisses, c'est comme d'une ERC grant avec une sélection à 11%. Il faut pouvoir montrer ce qu'on fait assez rapidement. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir le faire par le moyen des e-talks. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé de découvrir ce nouveau format de publication multimodale et à votre disposition pour toute question.
Merci beaucoup, Claire. Donc, si vous avez des questions dans le chat, ou même si vous souhaitez prendre la parole, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous êtes entré sans activer le son, sans activer le micro, ça sera compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc peut-être retour sur la question de la certification dont tu parlais, Claire. Donc tu parlais du rôle des éditeurs commerciaux. On pourra dire que les éditeurs publics qui sont aussi des éditeurs commerciaux pourraient aussi jouer ce rôle de certification, et que ce rôle de certification pourrait tout à fait, comme tu l'as dit, se faire dans un cadre de libre accès. Sur la question de la certification, il y a la question de l'évaluation. Selon toi, ce nouveau type d'objet devrait-il faire l'objet, justement, d'un type particulier d'évaluation? Est-ce qu'on évalue seulement le contenu ou l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire le lien entre l'image et le son et le texte?
Alors, ça, c'est une question super importante que j'ai oublié de mentionner. Merci de me le rappeler, François-Xavier. Oui, ce type d'objet nécessiterait un nouveau genre de peer review, d'examen par les pairs. Et je pense qu'on ne sait pas encore faire ça parce qu'on n'a pas appris à apprendre dans une culture académique multimodale. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Face à une question pareille, ben, il faudrait au fond un projet de recherche. Alors, dans le projet H2020 OpéraSP, on a un VP, c'est le 6-6 mené par Herzbeth Tautsifra, sur les nouveaux moyens de peer review, qu'est-ce qui change. Herzbeth a fait une conférence l'automne dernier en Suisse en ligne sur l'examen, l'évaluation des environnements virtuels de recherche. Voilà aussi quelque chose pour lequel on n'a absolument pas encore de bonnes pratiques. Donc typiquement, face à une question pareille, il faudrait un morceau de projet de recherche qui viserait à élaborer de nouvelles façons d'évaluer ce type d'objet qui nous emmène ailleurs que nos habitudes strictement textuelles.
Je vois que Céline a écrit dans le chat qu'elle avait deux questions de la part de Valérie Mansart. Donc Céline, si tu veux les poser.
Oui, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup Claire pour ta présentation très claire et néanmoins détaillée. Donc, c'est deux questions de notre collègue Valérie Mansart, qui est éditrice à ENS Éditions à Lyon, sur l'accessibilité plus particulièrement. Donc, deux questions qui concernent les spécifications techniques de l'e-talk. Alors, je te les lis et puis tu pourras répondre aux deux dans ta réponse. Une question concernant le calibrage du texte alternatif, à savoir le nombre de caractères ou de mots, s'il y a une limite. Et la deuxième qui porte sur la structuration du texte alternatif. Est-ce que celui-ci peut être structuré, par exemple en plusieurs paragraphes, en listes, etc. Ce qui permettrait donc, j'imagine, une meilleure accessibilité par les consoles vocales.
Alors, quant à la longueur de l'e-talk, ça, il n'y a pas de limite. Hein. C'est vraiment la durée du discours du chercheur. Moi, j'ai toujours considéré que, c'est une question d'attention, hein, mais passer 40-45 minutes, c'était quelque chose de suffisant. Mais si une fois quelqu'un veut faire un e-talk de 3 heures, il peut. Ou si une fois on veut faire des petits e-talks flash sur un sujet de 2 minutes, c'est possible aussi. Ça, c'est complètement adaptable. Donc, comme je l'ai montré, le texte peut être structuré en partie, en paragraphe. Et Bon, là, on n'est pas sur le site, mais il y a un bouton où vous pouvez produire l'entier du texte d'un coup, si vous voulez avoir le texte. Donc, oui, on peut avoir des fractions, on peut avoir des morceaux, tout est imaginable.
Donc, y compris dans la petite fenêtre que tu nous as présentée de texte alternatif tout à l'heure.
Alors, la rubrique du texte alternatif pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, là, je ne maîtrise pas. C'est vraiment une question toute récente depuis notre discussion d'hier. J'ai simplement remarqué que PowerPoint mettait cette fonctionnalité à disposition. Il faudrait vraiment pousser l'enquête là-dessus. Après, c'est des questions techniques. Dans la mesure où PowerPoint a une fonctionnalité de description des images, à l'évidence, ça doit être possible d'une manière ou d'une autre de récupérer cette information et de la mettre à disposition. Typiquement, s'il y a une fois un projet de recherche ou des fonds pour développer quelque chose, voilà un point qui devrait être pris en compte. Et c'est un objet qui va tant pour les personnes qui ont un handicap de sourdité, puisqu'on peut voir le tout, que pour les personnes malvoyantes. Ça marche dans les deux cas de figure.
Parfait. Bah, du coup, je pense que Valérie reviendra sans doute vers toi avec peut-être des questions un petit peu plus détaillées, parce que c'est quelque chose qui, je pense, pourrait intéresser l'équipe à ONS Édition à Lyon qui travaille sur l'accessibilité. Donc voilà, peut-être qu'il y a des discussions à poursuivre autour de ça. Merci beaucoup.
Autre petite question, on a parlé du lien entre le texte et l'image, mais est-ce que vous avez déjà embarqué dans les e-talks également du son ou de la vidéo?
Alors ça, c'est une question, la vidéo qui est revenue déjà de temps en temps. On avait décidé au début que, à la place de voir le chercheur, on préférait voir les slides, les textes, les sources et puis l'entendre. Maintenant, donc on peut bien rajouter la vidéo du chercheur. Je ne suis pas convaincue que ça rajouterait forcément quelque chose parce que les nuances du pathos dans la rhétorique sont déjà tout entières dans la voix du chercheur. Par contre, on pourrait à terme ajouter des extraits de vidéos dans l'e-talk, mais de nouveau, ça c'est un projet de développement qui nécessite des fonds. Sur le plan technique, il n'y a absolument aucun souci, ce serait possible de le faire.
Oui, voilà, c'était un peu ça que je visais, hein. C'était pas tellement voir le chercheur, mais c'était plutôt s'il est en train de parler d'un sujet
oui,
sur lequel il peut être intéressant de faire le lien avec une vidéo.
Des fonds de développement, mais c'est possible, oui, tout à fait.
D'accord. Question également sur l'archivage des e-talks. Tu disais tout à l'heure que les données étaient déposées sur Nakala. En tout cas,
alors,
que pour le projet.
Projet Marc XVI, hein. Oui,
voilà,
ça c'est.
Voilà, pour le projet Marc XVI. Sinon, pour l'instant, les e-talks sont hébergés à l'Institut suisse de bioinformatique, c'est ça? Ils sont.
Tout à fait. Alors, la question de l'entretien des données en sciences humaines, c'est un poème, j'ai envie de dire, mais pour tout le monde. Hein. La Suisse, elle est vraiment en train de se structurer. Donc, le centre officiel qui prend ça en charge, c'est DASH, mené par Lucas Rosenthaler à Bâle. En même temps, les universités en Suisse qui aiment bien la diversité, hein, on est fédéraliste dans l'âme, testent différents modèles. Genève à Yaretta, Lausanne essaye SwissUBase. Voilà, enfin, on est un petit peu au moment où de recherche sur cet enregistrement des données. Pour ma part, je suis bien heureusement à l'Institut suisse de bioinformatique où on a un regard un peu différent du point de vue de la bioinfo sur cette question-là. Parce que la recherche sur infrastructure et sur les données informatiques fait complètement partie intégrante du storage, des data, du fait de garder les données. C'est un peu typique des sciences humaines et sociales de se dire qu'on produit notre science, après il faut la garder. Quand on est en train de travailler sur des données en bio-info qui évoluent, qui sont mises à jour périodiquement, on regarde les choses beaucoup plus de manière continue. Et donc forcément, la recherche sur infrastructure, la mise à jour des modèles fait partie du fait même d'avoir des données et de les garder. Donc, les choses sont bien assurées de ce côté-là.
Donc, une question vient de nous arriver dans le chat. Je vais la lire. Comment gérez-vous la question des copyrights? Tu l'as un peu évoqué. Les autorisations de droit sont-elles centralisées ou bien préparez-vous un contrat pour le texte, un autre pour l'image, un autre pour le son? Comment le ou les contrats sont-ils archivés? Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que dans le cadre des ETOC,
C'est terrible de lire une question comme ça parce que je me sens tout d'un coup très amatrice, mais les amateurs, ce sont ceux qui aiment, selon la racine latine, on va dire ça comme ça. On n'a jamais fait de contrat, c'est-à-dire que les chercheurs qui ont accepté de participer étaient absolument tous d'accord d'entrée et que leur matériel soit en libre accès, ça c'était, je dirais, dans la discussion de base. Et puis après, alors pour les copyrights, ben moi j'ai gardé les emails, alors ça je l'ai fait pour les ITO qu'on a, j'ai archivé les accords par email, puis quand quelqu'un était vraiment pas d'accord, ben on mettait pas l'image, c'est tout. Moi, j'ai jamais, je suis plutôt assez prudente sur cette question-là. Si avec un souci, quelque chose qui n'était pas bien et tout, je préfère changer et mettre une image libre de droit. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement archiver les confirmations par email. Et puis voilà, on n'a jamais fait de contrat pour les ITOC parce que justement, c'est resté une forme de recherche, hein. Maintenant, si ça devenait un produit éditorial en partenariat avec un éditeur public ou privé, ben là, on pourrait entrer dans l'idée d'un contrat, effectivement. Il y a eu à un moment donné des collègues, mais ça, c'était pas sous ma supervision, qui ont fait un contrat commercial autour des ITO. Je veux dire, c'est possible, hein. Moi, mon choix, c'était de le faire participer à un projet européen de manière ouverte, de le mettre sur GitHub de manière ouverte. Et à un moment donné, Frédéric Kaplan m'a donné son accord pour que l'outil même soit sur GitHub, à disposition des gens. Maintenant, si on veut en faire un produit commercial, ben c'est naturellement possible aussi. Ce serait moins, je dirais, dans la volonté, surtout qu'on lui a mis une naissance GPUL qui, sauf erreur, incite fermement, mais on peut obliger personne à rien, à théoriquement ne pas trop faire d'argent avec cela. En tout cas, disons, la volonté de départ, c'est que ça soit l'open science, c'est que ça soit la recherche ouverte à disposition de tous. C'est un vrai défi de savoir comment faire du libre accès et puis en même temps avoir de la rentabilité pour les maisons éditoriales. Là, ça serait mieux d'inviter Pierre Mounier avec son fameux modèle freemium qui a plein de bonnes idées sur la question. Là, évidemment, c'est toujours un challenge. Ouais.
Et c'est une question qui nous occupe beaucoup dans le réseau Médicis et dans l'ensemble de la communauté de l'édition scientifique publique, évidemment.
Personnellement, je dirais peut-être, s'il fallait chercher de la rentabilité avec les ITO, plutôt que de les rendre payants, ce qui me semblerait un peu absurde, puisque voilà, c'est en ligne, et puis on est allé dans ce sens-là, pourquoi ne pas partir dans l'idée d'y ajouter des publicités, des liens? On pourrait aussi relever le nombre de clics qui ont lieu sur des ITO, que les lier aux maisons d'édition, les servir comme, s'en servir comme vecteur de communication. Moi, je verrais peut-être plutôt de la rentabilité à ce niveau-là.
Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas chercher de rentabilité, hein. Je pense qu'on tous les collègues qui sont présents, je pense qu'ils iront dans ce même sens. L'idée, c'est surtout d'utiliser cet outil pour avoir un nouveau moyen de diffusion des savoirs, de partage du savoir avec une nouvelle expérience, comme tu nous l'as présenté. Une nouvelle expérience qui peut prendre sans doute tout son sens dans le contexte actuel. On en avait un petit peu parlé en préparant cette séance, mais c'est vrai que les visioconférences, et on en est la preuve, hein, avec notre cycle de webinaires, se développe évidemment avec la crise sanitaire et sans doute poursuivront après la crise sanitaire. J'ai vu passer une étude qui montrait qu'au niveau international, les chercheurs souhaitaient que même après la crise du Covid, on continue à faire massivement des choses en ligne comme ça. Et c'est peut-être une opportunité, je pense, pour développer les detox ou en tout cas des produits éditoriaux nouveaux qui mêlent le son et l'image. Mais ce n'est pas une question, c'est une remarque.
Je l'approuve complètement puisqu'on a d'ores et déjà décidé que la deuxième conférence du projet Marc XVI aura lieu en ligne. Donc voilà, c'est en juin 2022, donc il y a encore le temps, mais pour moi c'était évident qu'il y avait tellement d'avantages, d'une part quand même moins de soucis d'infrastructure à assurer, et puis surtout permettre à des chercheurs de partout d'accepter, parce que la première on l'a faite en ligne de force en quelque sorte, c'est prévu comme ça. Et puis du coup, on s'est rendu compte que voilà, ça permettait à des chercheurs, soit qui n'avaient pas forcément beaucoup de fonds pour voyager dans les pays du Moyen-Orient ou comme ça, de participer, ou alors aussi aux collègues américains, c'est quand même toujours impliquant de traverser l'océan, etc. C'est cher aussi, de participer beaucoup plus facilement. Donc moi, je suis à fond pour ce type de forme. On a pris trop d'avions, on a trop amoché la planète, on a trop voyagé, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça.
Donc, il y avait aussi un élément qui m'intéressait, on en a parlé un peu en introduction, c'est que si on revient au colloque, hein, aux conférences, aux séminaires, c'est aussi un moment social de la vie scientifique. Dans quelle mesure les ITOX pourraient permettre de restituer cette sociabilité qu'il peut avoir dans les congrès, dans les conférences? Parce que tel que tu le décris et tel que je l'ai remarqué quand je suis allé voir les e-talks, c'est un chercheur qui produit son e-talk en lisant sa présentation. Mais à l'issue d'un colloque, est-ce qu'on peut imaginer des développements qui permettraient d'ajouter une petite couche supplémentaire avec les échanges qu'il peut y avoir lors d'un colloque ou...
Mais je crois que la sociabilité, elle se fait quand on est en contact direct. Ce qui serait intéressant avec les e-talks pour avoir, je reviens sur le côté contenu scientifique qui m'intéresse toujours beaucoup, ce qui serait vraiment chic par exemple, ça serait de produire d'abord des e-talks, tout comme on aurait écrit d'abord un article, et puis d'organiser une conférence sur la base d'e-talks. Et tous les participants auraient été invités à écouter, regarder les e-talks, et on démarrerait directement la discussion avec l'auteur sur le contenu fourni et produit. Là, je pense qu'on obtiendrait vraiment une qualité de débat importante avec peut-être un intervenant qui répondrait, qui ferait la réponse à l'e-talk et qui engagerait le débat. Alors là, ce serait le top scientifique si une fois les chercheurs étaient d'accord de s'engager à faire d'abord les e-talks, puis la conférence interactive.
D'accord, oui, dans ce cas-là, l'e-talk reprend un petit peu la place d'un article ou d'autres formes de communication à partir de laquelle la conversation va pouvoir se faire.
Oui, sauf qu'on pourrait aisément imaginer qu'après la conférence, le chercheur encouragé, intéressé par les réactions qu'il a eues, peut-être réviserait l'e-talk, ferait un versionning avec version 2, ou bien ajouterait 5 minutes, parce que tout d'un coup, le collègue Z lui aurait fait remarquer qu'il avait absolument manqué le point stratégique en question. Ça permettrait facilement une reprise et un approfondissement du produit.
Alors peut-être dernière question, à moins qu'il y ait d'autres questions de la part de l'Assemblée ou des collègues, je ne sais pas, sinon moi j'ai plein de questions. Hein. oui, petite question, est-ce que vous avez pour l'instant des retours sur les usages? Est-ce que vous avez des mesures, des consultations, des e-talks, ou est-ce que vous avez des retours d'expérience d'usage de...
Alors, ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en place. On avait pu le faire un peu dans le cadre du projet d'Aria Teach, parce qu'à un moment donné, on avait aussi testé nos trouvailles et nos outils sur un public. Donc, j'avais eu quelques étudiants. C'était une collègue en Roumanie qui avait aimablement joué le jeu. Et puis, du coup, c'était intéressant. Mais typiquement, pour faire ça comme il faudrait pouvoir le faire à une certaine échelle, avoir des moyens. De nouveau, c'est quelque chose qui devrait prendre place dans un projet de recherche. La situation générale me semble mûre pour qu'on ait une fois un effort de recherche sur les outils de publication multimodaux et le développement de partenariats avec les éditeurs.
Et donc, dernière question peut-être, entre multimodal et multimédia, quelle différence de définition tu fais?
Pour moi, mais là, c'est peut-être une différence un peu arbitraire. Quand on dit multimodal, on est plus attentif à la synergie entre les médias. Quand j'entends multimédia, il y a toujours un peu la juxtaposition. Ben, c'est quelque chose avec plusieurs médias. Et voilà. Multimodal, on regarde ce qui se passe quand on met ensemble plusieurs modes de communication.
D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure. Céline, tu voulais peut-être. Il y a une question.
Oui, merci beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup à Claire pour cette présentation vraiment très intéressante et puis qui nous a permis aussi de nous plonger, une première plongée dans les humanités numériques, humanités digitales, comme on dit en Suisse. Et donc, on.
Aussi, hein. Les Bordelais parlent aussi d'humanité digitale.
Tout à fait. Donc c'était une première plongée. Je pense qu'il y aura sans doute des échanges par la suite sur ce sujet-là. Donc on reviendra vers toi, je pense. Donc je voulais aussi juste demander aux collègues qui sont là s'ils veulent bien répondre. On a fait un petit questionnaire parce que c'était notre premier webinaire pour savoir si ça vous a convenu, si vous voyez des petites choses à améliorer. Donc, il y a vraiment, je crois, 4 ou 5 questions max. Ça vous prend 2 minutes à répondre. Donc, si vous voulez bien, j'ai mis le lien dans le chat, y consacrer quelques minutes avant d'aller déjeuner, ça nous rendra bien service, ça nous aidera à améliorer les prochains webinaires. Et puis aussi pour vous dire que nous nous retrouverons, donc vous pouvez retrouver déjà dans quelques temps, on ne va pas s'engager sur un délai parce qu'il y aura un petit travail de, enfin même un gros travail de post-production sur la vidéo à faire pour pouvoir la retrouver sur notre chaîne Canal U. La chaîne Médici Canal U. Et puis, on se retrouvera si vous êtes disponible et que vous en avez envie pour un prochain webinaire. Donc, le 1er avril, c'est pas une blague, ce sera jeudi matin de la semaine prochaine à 11h pour une table ronde sur les ouvrages en accès libre et ouvert avec un retour sur des expériences de collaboration entre bibliothèques universitaires, chercheurs, chercheuses et presse académique. C'est une table ronde qui a été préparée et qui sera animée par Cécile Zviatek, secrétaire générale de l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires de la documentation, plus connue sous le nom d'ADBU. Voilà. Et bien encore, merci beaucoup à Claire pour cette présentation et d'avoir lancé avec nous ce cycle de webinaires. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine sous le soleil. J'espère qu'il y a un peu du soleil partout. Et de vous retrouver très bientôt. Ça sera le prochain webinaire sera sous Zoom. Donc, on testera un nouvel outil. Très bonne journée à vous.